Le bistrot du livre. Poussez la porte, asseyez-vous, et la suite, on vous la raconte. Se balader au milieu des livres, avec nos coups de cœur et nos coups de gueule, il n'y a pas de raison, des invités et les petites histoires des grands auteurs.
En compagnie d'Henri et Françoise, en partenariat avec Cépage d'Angle. Bonjour Henri.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Et le bistrot du livre, un titre à point nommé aujourd'hui. Parce qu'un bistrot, il y en aura un vrai. Et le livre, oui bien sûr, le livre au cœur de l'aventure qu'on va vous raconter. Le livre comme valeur absolue. Au départ, l'histoire de type complètement allumé, shooté à la littérature, comme d'autres peuvent l'être à la biologie microcellulaire ou l'astronomie. Des filles et des garçons qui scrutent les moindres cellules vivantes de la littérature d'aujourd'hui et nous font un petit peu mieux partager l'universel, en tout cas le monde d'aujourd'hui. Comme il va, comme il rêve, sur quel paysage donne sa fenêtre, le propre de la littérature en somme. Toute une bande qui a su garder le cap malgré les années, les déceptions peut-être, les tentations ou les difficultés, sans rien renier, avec humour et exigence. Et je ne le dis pas sous la menace du chef de bande ici présent, non. Juste l'envie de vous parler d'une aventure qui dure depuis 24 ans et qui a le mérite à chaque fois de nous faire découvrir des auteurs rares, loin, très loin des modes, des grosses machines en tête de gondole, livrées avec bandeau racoleur et précédées de critiques directement issues du dossier de presse de l'éditeur. Ici, pas le genre de la maison. À l'arrivée, un mensuel au titre poético-acrobatique et un invité à qui aujourd'hui nous allons confier la gérance de ce bistrot du livre.
Donc la revue poético-acrobatique, ça s'appelle Le Matricule des Anges. Et l'invité, c'est Thierry Guichard, le directeur de la publication. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Bonjour. Alors bien sûr, on va explorer le matricule et ce qui en fait sa particularité, sa richesse, son exigence. Mais le début de l'aventure, l'idée, le projet, ça vient d'où et ça part de quand ?
Alors en réalité, on était dans une école de journalisme, donc il y a plus de 26 ans maintenant, avec Philippe Savary, et on s'était retrouvés dans un cours à sortir en même temps la quinzaine littéraire. On était trois à sortir la quinzaine littéraire, et moi je faisais déjà de la radio depuis 81, donc j'avais envie de leur proposer aux deux autres de faire une émission de radio sur la littérature, avec un peu de musique. Et donc c'était né comme ça, simplement sur une radio associative de Strasbourg, et on a fait ça pendant un an et demi à peu près, et puis ensuite... l'école se finissant, chacun retrouvant un boulot d'été, enfin en tout cas en tant que stagiaire dans des endroits différents. Philippe, lui, est en Normandie, moi j'étais à France Inter, à Paris. On a décidé de transformer la chose en journal papier, donc en faisant une revue qui au départ était bimestrielle et qui est devenue mensuelle dans les années, je pense, à la fin des années 90.
Et alors après, pour la faire connaître, cette revue, pas évident, j'imagine.
Ah ben c'est le gros problème en général, surtout quand on n'est pas dans le courant, dans le mainstream, quoi. C'est-à-dire le premier numéro, je l'ai vendu dans la rue en disant que c'était une revue aphrodisiaque, parce que si je dis que c'était littéraire, ça marchait pas. Donc j'ai dit que c'était aphrodisiaque, ça a marché un peu plus, mais à chaque fois que j'arrivais à vendre un exemplaire, comme j'avais beaucoup parlé pour pouvoir le vendre, j'allais boire un demi à la terrasse d'un café qui coûtait aussi cher que le numéro de la revue, donc c'était pas très rentable. Et il a fallu qu'on attende d'abord quelques ruses de notre part pour avoir de la presse nationale, aller lécher les bottes un peu des grands officiers de la presse nationale qui ont vu en nous des petits jeunes sympathiques parce qu'ils n'ont pas lu les articles, et donc ils ont parlé de nous à peu près en même temps, ce qui a donné quelque chose, qui a donné une sorte de coup d'envoi de la chose au moment où le numéro 2 sortait, qui était un numéro sur Richard Brautigan.
Donc là on est en quelle année ?
92. Le premier numéro sort en octobre 1992 et le deuxième, donc un bimestriel, enfin il aurait dû sortir en septembre, le deuxième sort entre décembre et janvier, s'il y a quelque chose qui se passe entre décembre et janvier. Donc dès le départ, on avait pris du retard quand même.
Et donc là, c'est vous qui le financez, ce journal à 100%?
Oui, entièrement. Enfin, c'est financé. D'abord, le travail, évidemment, n'est pas rétribué. On fait la mise en page, on fait tout. On fait le suivi de fabrication, on fait absolument tout. Et on travaille sur notre temps libre. Donc ensuite, c'est financé par les achats et par les abonnements, puisque c'est une époque aussi où on va pas mal dans toutes les fêtes étudiantes, etc., pour essayer de refourguer un peu de cam. Et, enfin, cam, de matricule. Hein, et donc, voilà. Et donc, le but, c'était qu'on s'en sorte, qu'on s'autofinance, oui, tout à fait.
Alors, on va revenir à l'origine sur le titre, parce que Matricule des Anges, alors c'est à la fois, ouais, ce que je disais, poético-acrobatique, Matricule, c'est quand même vachement chargé comme nom, quoi. C'est assez lourd, hein. Ça fait flic, ça fait presque camp de concentration. Et les anges, alors là, c'est complètement éthéré. La rencontre des deux, ça vient d'où ?
Bah, en fait, je peux raconter deux histoires. Je peux dire une histoire officielle qui est fausse.
Voilà.
Et puis l'histoire officieuse qui est vraie. Alors, l'histoire officielle, c'est qu'on s'était dit qu'il y a eu des débats dans des siècles précédents sur savoir si les anges avaient un sexe féminin ou masculin. Et qu'on était à une époque où tout devait être fichés, rangés, et donc on a voulu associer quel est le matricule des anges, voilà. En fait, c'est pas du tout ça, ça c'est venu après, mais c'est absolument pas ça. C'est juste qu'on était dans cette émission de radio, on avait fait deux numéros de zéro, on aurait pu faire 800 numéros zéro, ça nous dérangeait pas, parce que nous on s'amusait, mais le directeur d'antenne nous a demandé de trouver un titre à la revue, et de le trouver pour le lendemain matin 7h, Comme on n'est pas très matinaux, on est allé dans un Wienstube alsacien et on a commencé à goûter des flammekücher en buvant du vin, du Riesling, du Gewürz. Et puis les bouteilles aidant, on était parti d'un truc très simple qui était guillemets, apostrophe, ah ça existe déjà, etc. Et mon collègue qui a pas un esprit normal, qui a un esprit un peu tordu, a sorti à un moment donné le matricule des ânes. On trouvait ça joli, on savait pas ce que ça voulait dire, mais on trouvait ça grave. Joli. Et ouais, puis on lui dit, bon, les ânes, c'est un peu terrible pour les auditeurs quand même, parce que ça veut dire que ce sont eux les ânes, donc on a cherché autre chose, et on est resté sur le hiatus et sur le A, et on est arrivé à ange, donc voilà, c'est comme ça. Mais il n'y a aucune raison vraiment. Voilà.
Donc ouais, il y a un peu de la part de l'ange du vin là-dedans quand même.
Alors la part de l'ange viendra plus tard.
On en reparlera. À propos des tout premiers numéros, parce que Françoise est une vieille compagne de route du matricule, non mais je parle pour le lectorat, et tu as retrouvé dans un numéro 2 une rubrique, parce qu'on y viendra sur les rubriques, mais une rubrique qui marque bien l'évolution des temps et des époques. On en était encore au Minitel à cette époque-là.
Ah ouais, donc dans le numéro 2, sur la première, dans un article qui s'appelle « Cinquième de couverture », c'est, le titre est « Le 36-15 au secours du livre ». Alors quand moi j'ai lu ça, là, quand on préparait l'émission, je me suis dit oh, « 36-15 ». Donc du coup, on est revenu au Minitel, et là c'était « Se faire livrer gratuitement le dernier Modiano lorsqu'on habite un village du sud de la Corse ou du centre du Massif central, par exemple, c'est possible ». De ce formidable outil de communication qu'est le Minitel, Alain Schmitt, gérant de la librairie Lettres Ouvertes, a donc fait un vecteur de vente du livre. L'idée est simple, tout le monde n'a pas la chance de trouver devant sa porte une librairie dont le fond répondrait à tous les besoins, à toutes les envies. En milieu rural, acheter un livre signifie au mieux prendre sa voiture, faire quelques kilomètres aller-retour, sans être toujours sûr de trouver l'ouvrage convoité. Donc quelque chose de merveilleux ce 36-15. Et j'ai regardé de nouveau janvier-février 93, je me suis dit waouh. Donc du coup, et aujourd'hui on a l'impression que cette proximité de se faire livrer un livre, sauf par Amazon, c'est quelque chose qui est devenu presque courant. Et donc je me suis dit ouais, bon, donc ça, on a suivi une espèce d'histoire de la diffusion, distribution du livre. Alors je sais pas où elle en est cette distribution aujourd'hui, mais en tout cas voilà, je sais pas, j'ai envie de vous revenir là-dessus, parce que je me dis waouh, c'est déjà ça, et précurser déjà.
Déjà ça me donne un coup de vieux quand même.
Ah mais moi aussi, t'inquiète.
J'avais complètement oublié ça. Oui, c'est vrai que si je me souviens bien, c'était un libraire qui était dans le 14e arrondissement, je pense, et qui avait plein d'idées comme ça pour faire des choses. Et c'est vrai que dans le monde du livre, on a trouvé comme ça des éditeurs ou des libraires ou des directeurs de revues, voire des écrivains, qui avaient des idées un peu farfelues qui s'avéraient être exactes un peu plus tard, assez vite d'ailleurs, et ce qui faisait que ça rendait caduque leurs investissements et qui leur a coûté cher ensuite, puisque forcément, si on investit sur un modèle et que c'est pas le bon qui va être choisi par les autres, on est assez vite coincé. Donc oui, sur la diffusion, etc., c'est sûr qu'Internet a beaucoup changé la donne aussi, et que les livres électroniques aussi, aujourd'hui, peuvent peut-être changer la donne, encore que je pense qu'ils ne changeront rien à l'état d'une édition du livre papier qui continuera à persister, ça j'en suis persuadé. Mais c'est vrai qu'on s'est intéressé à ça parce que l'objectif dans le matricule, c'était de rendre la littérature présente dans la cité, ce qu'elle est de moins en moins, me semble-t-il, en tout cas la littérature qui en vaut la peine. Et donc toutes les idées qui pouvaient faire en sorte que le livre soit accessible, c'était à mon sens des bonnes idées. Sauf qu'on voit bien que les tuyaux, ce que j'appelle les tuyaux, c'est-à-dire la distribution et la diffusion. Les tuyaux sont aux mains de grands groupes dont le but est de standardiser la demande et l'offre, donc d'avoir des gros livres qui partent dans des gros tuyaux pour aller chez des grosses personnes. Voilà, c'est assez terrible parce que c'est un peu la négation même de la littérature, en fait.
Oui, alors justement, notre invité donc aujourd'hui, Thierry Guichard du Matricule des Anges, qui lui travaille sur ce pas de côté et ce regard différent sur la littérature contemporaine. Alors j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas tout seul sur la planète des livres, hein. Je pense qu'il y a les nouvelles littéraires, on en parlait, il y a les suppléments livres de pas mal de journaux, Le Monde, Libé. Mais chez vous, il y a quelque chose de différent, en ce sens qu'on devine derrière les pages un incroyable travail de lecteur. Parce que lorsque vous consacrez un dossier à un auteur, à un poète, on sent bien que vous avez tout lu ou presque. Une interview, c'est 2 pages, un dossier, c'est 8 pages. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, quoi, dans le traitement de l'information littéraire telle que vous la pratiquez.
Oui, en fait, c'est pas nous qui sommes différents, ce sont les autres qui sont différents.
Oui.
Parce que nous,
sont feignants un peu.
Non, je dirais pas ça, mais nous, on est dans des fondamentaux. On veut parler littérature, donc il faut au minimum la lire. Et ensuite, quand on va interroger un écrivain, il faut au minimum parler de littérature et non pas de ce qu'il aime manger ou quelle équipe de foot il supporte ou choses comme ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut de la place aussi. Donc, c'est le luxe que l'on s'offre, nous, dans notre propre journal, c'est de se donner la place. Aujourd'hui, les dossiers font même 10 pages. On est, en termes de signes, autour de 60 000 signes, ce qui peut parler aux professionnels de la presse. C'est énorme. Je pense qu'un dossier ou un grand article dans Le Monde des Livres ou dans Télérama, etc., ça oscille entre 4 500 et 9 000 signes. Donc, nous, on est largement au-dessus de ça. Donc ça, c'est un luxe qu'on s'offre, évidemment, mais c'est aussi un pari que l'on fait, c'est qu'il est capable, n'importe qui est capable de lire un article de 10 pages un article ou un dossier de 10 pages sur un auteur, du moment que ce dont on parle soit de la littérature et non pas autre chose, quoi.
Oui, si c'est pertinent, et le zapping n'est pas une fatalité, quoi.
Oui.
Et alors, moi, ce que j'aime bien dans votre travail, dans votre boulot, c'est le côté passeur, quoi. Vous êtes lecteur et passeur, et ça nous renvoie un petit extrait d'un texte de Patrick Modiano, c'était pour son discours de réception lors du Nobel de littérature. Et Modiano parlait assez bien du rôle du rôle entre le lecteur et l'écrivain, mais on y devine aussi en filigrane un petit peu votre travail à vous de journaliste dans le Matricule. Françoise, un petit extrait.
Le lecteur en sait plus long sur un livre que son auteur lui-même. Il se passe entre un roman et son lecteur un phénomène analogue à celui du développement des photos, tel qu'on le pratiquait avant l'ère du numérique. Au moment de son tirage dans la chambre noire, la photo devenait peu à peu visible. À mesure que l'on avance dans la lecture d'un roman, il se déroule le même processus chimique. Mais pour qu'il existe un tel accord entre l'auteur et son lecteur, il est nécessaire que le romancier ne force jamais son lecteur, au sens où l'on dit d'un chanteur qu'il force sa voix, mais l'entraîne imperceptiblement et lui laisse une marge suffisante pour que le livre l'imprègne peu à peu. Et cela par un art qui ressemble à l'acupuncture, où il suffit de piquer l'aiguille à un endroit très précis et le flux se propage dans le système nerveux.
Eh bien, vous aussi, vous êtes un peu les acupuncteurs, parce que vous appuyez, pendant les interviews, vous appuyez l'aiguille là où il faut pour que l'auteur que vous avez en face de vous se dévoile sur son travail, sur sa méthode. Parce que c'est vrai que vous en parliez, le côté vie privée et petit secret people, là non plus, c'est pas le genre de la maison. Donc, comment vous abordez, vous, les auteurs, et comment vous les dénichez? Parce que ça, c'est un truc qui est tout à fait étonnant. Moi, je dois vous avouer très honnêtement, 3/4 des auteurs dont vous parlez, je ne les connaissais pas. Et quand on reprend l'histoire du Matricule des Anges, ben on s'aperçoit que les gens dont on parle aujourd'hui qui ont un vrai travail, une vraie œuvre, vous les aviez abordés il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, je pense à, mettons, Bobin ou Mathias Sénard, par exemple. Alors comment vous préparez, vous, ces dossiers? Bon, lire, d'accord, mais et après, comment ça s'établit le contact avec un auteur que vous contactez comme ça?
Alors, c'est une question assez difficile parce que j'ai pas l'impression que ce soit qu'il y ait un enjeu compliqué là-dessus. Moi, on reçoit beaucoup de livres, hein, on reçoit 400-450 livres par mois. On les lit pas tous, évidemment, on les dispatche à travers l'équipe. On sait qu'il y a des noms où il y a des couvertures de livres dont on sait que, ce que ça vaut. Enfin, il y a des éditeurs, on sait vers quoi ils vont. Donc on peut déjà définir une sorte de géographie un peu large de la chose. Ensuite, pour faire un dossier, on a fait des dossiers avec des auteurs qui avaient 2-3 livres seulement, pas beaucoup plus. Mais on fait des dossiers aussi sur des auteurs qui ont une œuvre beaucoup plus conséquente. Et donc on les a vus émerger, on les a vus venir, on lit des articles aussi. Enfin, on lisait, parce que j'en lis de moins en moins des articles de presse sur la littérature. Enfin, à l'époque, j'en lisais. Et puis, voilà. Et après, il y a une espèce de... Quand on découvre un texte qui nous plaît, après, on a envie de lire les autres textes de l'auteur. Bon, et si ça continue à nous plaire, là, on a vraiment envie de le rencontrer. C'est aussi simple que ça, en réalité. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas d'a priori esthétique. On ne se dit pas, il faut aller vers une modernité, ou il faut aller vers un lyrisme, ou il faut aller vers ci. On lit, c'est ce qu'on ressent, nous. C'est-à-dire que ça va être le moteur, l'émotion, va être l'émotion ou l'excitation intellectuelle, vont être les moteurs du désir de rencontrer l'auteur. Après, c'est très simple. Après, on passe rarement par une maison d'édition pour avoir l'auteur, parce que on fait pas mal de salons, on fait pas mal de festivals, etc. On a un bon carnet d'adresses d'auteurs. Et alors, au début, je dis pas que c'était comme ça, parce que effectivement, au début, il fallait exister. Ça pesait pas lourd, le matricule des anges. Aujourd'hui, je crois que dans la profession, c'est assez connu. Donc, si on demande à un auteur de le rencontrer, il y a aucun souci, on le rencontre assez vite. Ça, c'est pas un problème.
Ça marche. Et c'est l'équipe du matricule, c'est combien de personnes? Comment vous fonctionnez? Vous réunissez de temps en temps ou vous êtes éparpillé?
Alors, on fonctionne très mal. On fonctionne horriblement mal. Il y a 2 permanents, donc Philippe Savary et moi-même. Et moi, j'ai un autre travail par ailleurs, ou 2 autres travaux. Je sais pas si on dit 2 autres travaux, non, c'est pas des travaux. Enfin, 2 autres jobs, voilà, par ailleurs. Donc, on se réunit plus, quoi. On n'arrive plus trop à se réunir. Alors, effectivement, il y a le téléphone, il y a Internet, il y a les mails. Philippe gère l'équipe rédactionnelle aujourd'hui, qui est composée d'une 20aine de personnes qui travaillent bénévolement. Alors, ils reçoivent les livres et ça les intéresse. Enfin, on n'a pas de fouet, on n'est pas en train de les fouetter pour qu'ils écrivent. Et ça se fait un peu comme ça. Donc, c'est une drôle de sauce, en fait. Et il y avait quelqu'un dans l'équipe qui avait dit que c'était fait par des gens qui s'entendent pas. Et que il y avait une unité avec des gens qui s'entendent pas. Parce qu'évidemment, on se crêpe le chignon sur des choix d'écriture, des choix d'auteur, enfin voilà. Mais ça se fait comme ça depuis 24 ans sans que je sache exactement si c'est viable. Alors depuis 24 ans ça fonctionne, donc je me dis pourquoi pas, quoi.
Ouais, expérimentalement ça marche quand même. Alors il y a les rubriques et puis il y a les choix aussi que vous avez mis en avant. Par exemple, mettre en avant les... Je ne sais pas si on doit dire les petits éditeurs, mais en tout cas les éditeurs différents, militants. Et ça, c'est intéressant aussi d'avoir cet éclairage-là sur des maisons d'édition qui ne sont pas les grosses machines parisiennes, quoi.
Alors là, encore une fois, on ne fait pas un pas de côté, ce sont les autres qui l'ont fait. C'est-à-dire que quand on lit Chiffrine, un livre qui s'appelle « L'édition sans éditeur », on s'en rend compte. C'est-à-dire qu'au sein des grosses boîtes, ce ne sont plus des éditeurs. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui lisent des manuscrits et qui ont des goûts, qui choisissent. Ce sont des gens qui viennent de la grande distribution. Donc des groupes, je ne vais pas les citer, mais enfin les groupes qu'on trouve à la sortie des villes avec des grands parkings autour. Donc ces gens-là ne nous intéressent pas puisqu'ils ne vont pas nous parler d'édition. Donc ils vont pas nous parler de littérature. Donc on est allé chercher plutôt des éditeurs qui lisent des manuscrits et qui ont quelque chose à dire. Alors on en trouve dans des grands groupes, hein. On en trouve chez Gallimard, ou on en trouvait chez Gallimard. Enfin, j'avais fait Jean-Bernard Pontalis qui faisait la collection L'un et l'autre, qui est une des plus belles collections de Gallimard. Donc on est allé voir le directeur de collection. On n'est pas allé voir Monsieur Gallimard en personne parce qu'il n'y a aucun intérêt. Puis aller sur son yacht au Maroc pour l'interviewer, c'était hors de nos moyens. Donc on préfère voir ceux qui lisent les livres finalement. Et donc voilà, c'est tout. Alors après, ils sont forcément militants puisque à partir du moment où vous essayez de faire émerger dans l'espace public une voix, une langue qui était inconnue jusque-là, qui est novatrice, qui est nouvelle, qui est singulière. Si vous ne militez pas, la voix, elle reste inaudible de tout le monde et l'auteur va disparaître ainsi que le livre. Donc c'est une obligation de devenir militant à ce moment-là. Mais je ne pense pas que ce soit le militantisme des éditeurs qui nous intéresse. C'est simplement leur regard sur la littérature, leur choix, leur esthétique et que ce qu'ils produisent amène, nous semble-t-il, quelque chose qui fait du bien.
Ben c'est la question du choix, elle est intéressante aussi dans les rubriques. Moi, je pense à la rubrique Les Oubliés, par exemple. L'avant-dernier numéro, il y avait à propos du festival de BD d'Angoulême, on a beaucoup parlé du jury à 100% masculin et un peu le machisme ambiant dans la BD. Donc, vous en parlez dans la rubrique, vous revenez un peu, vous assaisonnez un petit peu ce phénomène de machisme dans le jury du festival, et vous en profitez pour, hop, parler d'une dame qu'on connaissait pas, Fortuné Briquet, qui avait fait le dictionnaire des créatrices françaises en 1804. Donc c'est bien parce que, avec ironie et humour, Toc, vous remettez sur le devant de la scène quelqu'un en vous servant de l'actualité. Ça, je trouve ça c'est vraiment une marque de fabrique aussi du matricule.
Mais il faut rendre à César ce qui appartient à Éric Dussert, parce que c'est Éric Dussert qui a fait cet article. Il a cette rubrique qui s'appelle Les égarés et les oubliés, dans laquelle il rend hommage, ou il ressort des oubliettes, des écrivains qui ont eu peut-être leur heure de gloire. En général, ça se situe entre le début du XXe siècle et le milieu du XXe siècle, parfois un peu avant. Mais des personnalités assez étonnantes de la littérature qui touchaient à beaucoup de choses, que ce soit le journalisme, le cabaret, enfin des choses comme ça, et des gens qui pour lui ont un intérêt. Alors Éric Dussert est un défricheur de ce genre de littérature, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, enfin c'est un conservateur d'état à la BNF à Paris, et donc c'est quelqu'un qui aime bien toutes ces choses-là, les curiosités éditoriales. Donc il a fait cette rubrique-là, et alors après qu'il le mette avec l'actualité aujourd'hui, et bien, c'est très bien, parce que c'est un peu ce que nous on souhaite faire. Quand vous dites vous avez écrit ça, il faut savoir que le matricule est fait par des individus en fait, et que quand on me dit ah oh, ouais, matricule vous aimez pas ça, je dis mais j'en sais rien moi si on n'aime pas ça au matricule. Il y a eu un article qui a dit du mal par exemple, mais c'est un tel qui n'a pas dit du bien. Et nous, la seule chose qu'on demande aux collaborateurs, c'est qu'ils nous parlent de littérature. Ils peuvent émettre les avis qu'ils veulent à partir du moment où ils les justifient dans l'article. Voilà, c'est juste ça.
Et c'est le propre aussi de l'éditorial que là vous signez. Et bah, l'éditorial aussi, on s'accroche à un phénomène d'actualité pour aller au plus général. Moi, je pense à l'avant-dernier édito, c'était à propos du moustique Zika. Et là, on pique là où ça fait mal.
Françoise. Donc, quelques lignes de cet édito. Qui est son titre, Les grandes peurs. On connaît désormais le nom du nouveau feuilleton dont les médias vont diffuser les épisodes régulièrement, avec probablement une recrudescence d'annonces prévues vers l'été. C'est Zika. Et en France, le moustique tigre aura le rôle principal. Certes, les effets de Zika sont certainement moins dangereux que le sida, ou disons une centrale nucléaire japonaise prise dans un tsunami, les émanations des pots d'échappement, l'extraction du gaz de schiste, ou l'usage industriel de désherbants chimiques dans la viticulture, pour prendre des exemples au hasard. Mais Zika, qui nous vient d'Ouganda, a ceci de bien. Il vient de l'extérieur. Un moustique n'est pas un humain, et l'Ouganda, c'est loin. Il peut donc concentrer une partie de nos peurs. Cool. Occupons-nous de Zika. Ça évitera de fâcher Total, le lobbying nucléaire, l'industrie automobile, le commerce phytosanitaire. On remarquera combien, depuis le début des années de crise, 40 ans que ça dure, on externalise les dangers qui nous guetteraient. Les terroristes, des étrangers. La violence dans nos villes, des banlieusards. La pollution de nos plages, les touristes.
Voilà, le ton est donné. Et moi, j'ai toujours un grand plaisir à lire vos éditos. Et puis, il y a le matricule des anges, et on en parlait au début de cette émission. Il y a aussi ce nouveau travail que vous êtes donné. Donc, c'est à Portirhein, c'est pas très loin. Et vraiment, je vous conseille d'aller y faire un saut. C'est le café que vous avez repris et qui s'appelle La Part de l'Ange.
Oui, voilà, c'est une drôle d'aventure, je dirais, ou une drôle de mésaventure, parce qu'on ne sait pas trop si ça va se finir en aventure ou en mésaventure. Oui, mais c'est un café que j'ai repris avec ma compagne il y a 3 ans maintenant, pour essayer de faire un lieu de vie. Enfin, c'est à l'image du matricule, en fait. C'est-à-dire que le matricule, c'était de mettre la littérature dans la cité, et là, la Part de l'Ange, c'est de remettre un peu de lien social de la littérature aussi, puisqu'il y a une librairie dans le café, de la littérature, du lien social, de la fraternité, dans nos villages où il y a quand même un phénomène assez étrange qui se passe, des murs qui montent autour des maisons, des caméras qui se pointent au carrefour, des rues désertes, et dans cet état-là, une montée du Front National qui est inquiétante parce qu'elle est totalement injustifiée, en tout cas si on regarde les vies qu'on mène, et inquiétante pour l'avenir, tout à fait, oui. Donc c'était de faire un lieu de rencontre. C'est vrai que le comptoir, le bistrot, le comptoir, le café est un lieu qui m'intéresse particulièrement parce que la vie s'y trouve aussi beaucoup là, et que c'est pas parce que c'est un bistrot qu'on peut pas parler de littérature, quoi.
Et donc il y a des rencontres régulières avec des écrivains, il y a des cafés citoyens.
Oui, c'est ça, des cafés citoyens, des rencontres avec des écrivains, des rencontres avec des vignerons aussi, puisque c'est aussi un bar à vin, des rencontres avec des comédiens, des rencontres avec des rugbymen, puisqu'on a fait le rugby il y a trois jours dans le café. Voilà, tout ce qui peut amener de la vie et du débat et de la rencontre. Exactement, c'est ça. Enfin, le débat, la rencontre, c'est exactement ce que l'on cherche. Et effectivement, les deux vecteurs principaux, c'est quand même la littérature et le vin.
Le livre au cœur de la cité, on retiendra l'expression. C'était donc notre invité Thierry Guichard du Matricule des Anges et de la part de l'ange à Portiragne. Merci beaucoup.
Merci.
Et à bientôt.
Merci Thierry, au revoir.
Vous êtes bien sur Radio Marseillais, votre radio audoise.